Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage avec la compagnie de train autrichienne OBB et son fabuleux Nightjet, le train de nuit de mes rêves. Imaginez vous quitter Paris ou Strasbourg à la nuit tombée et vous vous réveillez doucement en Autriche après un gros dodo sur les rails. En quelques heures, vous voilà dans le centre-ville vibrant de Vienne, prêt à explorer ses cafés charmants et ses rues historiques. Pendant ce green trip en train, vous pouvez aussi faire escale à Salzbourg, la ville de Mozart, à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Pölten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Nightjet d'OBB. Personnellement, j'ai déjà booké une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train.
Bonjour, c'est Marie et vous écoutez Beau Voyage. De l'ascension du Merapic au Népal, au tour du monde en famille, du road trip au Chili au bivouac en âne dans les Pyrénées, vous entendrez des hommes et des femmes qui partagent leurs aventures hors des sentiers battus. Des aventuriers ordinaires qui vous racontent leurs aventures extraordinaires. À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Quand la plupart d'entre nous bavaient devant Hartley Cœur à Vif, Frédéric L. se rêvait en Jane Goodall, son idole. Vous savez, cette Anglaise qui s'est passionnée toute sa vie pour les chimpanzés. Rien ne prédestinait pourtant cette pétillante Belge à mettre un pied en Afrique. Elle qui n'avait jamais visité d'autres pays que la Belgique et la France. Alors comment se retrouve-t-elle au cœur de la brousse dans le Kruger Park? Avec Frédéric, on va découvrir comment le destin peut décider de transformer nos vies. Comment elle a élevé Jules et Charlie au milieu des impalas et des scorpions. Et comment son rêve est devenu la plus belle des réalités. Elle nous raconte cette expérience magique, passée dans un lodge au cœur de la savane, entourée d'animaux sauvages, avec son lot de dangers, de moments suspendus et de souvenirs inoubliables. Mais elle revient aussi sur ses années passées au Cap avec toute sa famille et nous partage ses meilleurs conseils pour découvrir tous les trésors d'Afrique du Sud. Moi, je suis trop contente qu'on se parle aujourd'hui parce que j'adore parler d'Afrique. Donc déjà, il faut qu'on commence, Frédéric, avec qui es-tu? Que les gens te connaissent, quoi.
Je ne sais pas par quoi commencer. Je suis belge. Et j'ai quitté la Belgique à 24 ans.
Pour faire quoi?
Pour partir vivre en Afrique du Sud.
Mais comment ça t'est venu alors? Pourquoi t'es partie vivre en Afrique du Sud?
Alors, j'ai toujours eu une attraction pour le continent africain. Et,
t'es allée quand t'étais petite avec tes
jamais,
parents et tout?
Jamais. Non, je suis pas du tout d'une famille aventurière et voyageuse. Et en fait, j'ai toujours eu une passion pour les gorilles et les chimpanzés. Et j'avais une passion infinie pour Diane Fossey et le docteur Jane Goodall. Et donc, je n'aimais pas lire.
Gorille dans la brume.
Gorille dans la brume, je l'ai vu 20 000 fois. Et en fait, je détestais lire. Et pourtant, j'avais un seul livre depuis mes 8 ans sur ma table de chevet. C'était « Ma vie avec les chimpanzés » de Jane Goodall. Et il y avait des photos au milieu. Et je la voyais avec sa queue de cheval toute blonde, avec son petit bout en pleine brousse sous tente, à étudier les chimpanzés.
T'as grandi avec son image sur ta table de chevet, quoi.
Voilà. Et tout le monde savait qu'à mon anniversaire, il fallait un cadeau. C'était autour du chimpanzé ou du gorille. Mais je n'avais jamais mis un pied sur le continent.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe à
24
ans?
Et donc, premier voyage à 21 ans.
À 21 ans, c'est ton premier voyage en Afrique.
Pas organisé. On part en Afrique du Sud avec mon futur mari. On loue une petite polo et on atterrit Jobourg. On fait Jobourg-Cape Town. Et puis, on traverse tout le pays et on finit au Kruger Park. Et là, c'est la révélation de ma vie. Et on reprend le vol à Jobourg et je pleure tout le trajet de Jobourg à Paris dans l'avion.
Et quoi, tu lui dis, il faut qu'on aille vivre là-bas.
C'est une telle révélation que c'est et heureusement il a la même. Hein.
Ouais. vous bossiez tous les deux là en Belgique.
On bossait, mais moi je suis toute jeune donc je sors des études et je suis en job d'étudiant quoi.
Enfin,
j'ai travaillé dans une boutique de vêtements, je travaille dans un bar. Enfin, c'est vraiment il y a rien qui.
Et lui,
idem.
D'accord.
Donc vous êtes libre, quoi.
On est complètement libre, on a juste un chien, donc on fait nos deux valises, on prend notre chien et on se barre.
Mais tu te barres, c'est-à-dire tu prends un vol Paris,
Jobourg
et ciao.
On prend un vol Paris et on atterrit. Mais donc on ne sait pas comment rester dans le pays.
Okay.
C'est pas légal de rester à long terme. Donc,
peux rester combien de temps quand tu viens comme ça sans visa et tout ?
C'est 2 fois 3 mois.
D'accord, ok.
Étant donné qu'on est jeune, on n'a pas des gros budgets et qu'on est parti au moment où tout le monde commence à se marier. Tout le monde nous demande des conseils sur le pays pour les voyages de noces. Et donc, on se dit, ouvrons une agence de voyage.
Bon bise.
Ça nous coûte un site internet, 1000 euros, et on lance. Sauf que ça prend des proportions.
Et donc, tout le monde te demande.
On fait tous les voyages de noces de tout le monde, mais aussi on a des familles. Enfin, le bouche à oreille, en fait, explose très vite à Bruxelles.
Et là, t'es basé où, toi ? T'es en Belgique ou t'es en...
Non, là, on est déjà dans la brousse.
Ah, t'es déjà dans la brousse ?
Ouais, on a atterri dans la brousse directe.
Mais quoi, t'as trouvé un appart, t'as loué une maison ?
Une petite
comment
maison à louer, 300 euros. Ça coûte pas très cher là-bas. Hein. On a...
Donc t'es installé dans la brousse avec ton ordi, ton fiancé.
Voilà,
et
une connexion internet avec une antenne sur le toit pour capter la radio.
C'est trop bien.
Et donc on lance cette activité qui nous permet en fait d'obtenir nos permis.
D'accord.
Assez vite. À l'époque, en fait, c'était encore assez pas facile. Ça prenait du temps, mais les investissements qui étaient demandés n'étaient pas aussi énormes. Et en fait, on avait cette chance d'être arrivé avant 2010, donc avant la Coupe du Monde. Et donc, l'Afrique du Sud soutenait en fait tout ce qui était activité touristique,
d'accord,
agence de voyage, mais aussi tout ce qui était accommodation.
D'accord.
Donc, le pays nous demande quand même d'investir 2,5 millions de rand, qui équivalait à l'époque, parce que le rand a évolué, mais à l'époque, ça représentait plus ou moins pour nous 200 000 euros.
Okay.
Et donc là, on prend la décision quand même d'investir plutôt dans de la brique, plutôt que dans des 4x4 ou un plus gros site internet, etc. Et donc, on s'achète un lodge en pleine brousse. Voilà. Délire total. Et donc, on s'est retrouvés à deux à vivre dans 600 mètres carrés, dans une baraque, 5 chambres.
Il était où exactement, ce lodge ?
Dans le Kruger Park, dans la partie privée du Kruger Park.
D'accord.
Ouais. Donc, il y a le Kruger Park qui fait plus ou moins la taille, ça fait 2/3 de la Belgique. Et tout autour, en fait, tout devant, il y a toutes les réserves privées. Donc, il n'y a plus de barrières pour les animaux entre le Kruger et toutes ces réserves privées. Donc, les animaux circulent. Donc, au niveau, faune et flore, c'est exactement comme au Kruger, sauf qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'individus, passer de ces réserves privées directement dans le Kruger. Il faut quand même passer par des entrées.
Mais quand tu penses que quand tu es touriste, c'est mieux d'aller dans une réserve privée ou d'aller dans le Kruger ?
Nous, on conseille quand même toujours de faire les deux. C'est deux ambiances quand même différentes. Et dans les réserves privées, il y a quand même... déjà, les lodges sont beaucoup moins chers. Et pourtant, les animaux sont les mêmes. La savane est la même. Et ce sont toutes des petites entités dans ces réserves privées. Donc, c'est sympa. C'est jamais des gros lodges.
C'est une autre ambiance.
Et c'est une toute autre ambiance. C'est des passionnés. Nous, on avait des amis rangers dans la région. C'est vraiment des mouglis, quoi. Tandis que dans le Kruger Park, en lodge privé, en tout cas, ça coûte vraiment très, très cher. Alors qu'il n'y a aucune garantie, étant donné que la superficie est beaucoup plus grande, c'est plus difficile de voir des animaux. Ça coûte vraiment très cher, mais il y a les camps publics qui sont très chouettes, mais alors c'est pas du tout le même service, quoi.
Et t'as eu peur là dans la brousse, tu t'es fait des frayeurs déjà ou pas ?
Alors on a quand même eu, oui, on a connu plein de choses. Hein. Moi j'ai eu du venin d'un Mozambican cobra dans les yeux.
Comment ça ?
C'est simplement en marchant, j'ai senti des gouttes sur ma joue et j'ai cru qu'il y avait un tuyau d'arrosage qui était percé. Et je me suis retournée, il était dressé. Et là, il cible très vite le blanc de l'œil.
C'est vrai ?
Et
il donc, cible le blanc de l'œil ?
Ouais, et il peut aller jusqu'à, je crois, 2-3 mètres, ça va loin. Et donc, le temps de retourner ma tête, j'ai juste eu le temps de me dire « Ah, trop tard ».
Voilà, qu'est-ce qu'on
fait ? Ça va à une vitesse, il faut directement aller à l'hôpital. Et donc, je suis arrivée aveugle à l'hôpital.
Arrête.
Voilà. Le temps d'y arriver.
Et qu'est-ce qu'ils font à l'hôpital ?
Alors, ils endorment très vite les yeux parce que la douleur est extrême. On sent très vite le venin qui passe à l'arrière et qui attaque le nerf optique. Donc, tout de suite endormir pour adoucir les douleurs. Et puis, ils passent avec je ne sais plus quel...
Ils lavent
les yeux le plus possible. Et puis, ils m'ont demandé de décrire le serpent pour donner le bon sérum. Mais donc, sans savoir si le sérum allait être le bon, ils m'avaient donné une liste de symptômes. Au cas où ce n'était pas le bon sérum, il fallait que je revienne rapidement. Mais bon, voilà, il y avait quand même une chance.
Qu'est-ce que je fais, moi, si je croise un serpent dans la brousse ? Je ne le regarde pas. Si tu le regardes,
il faut porter des lunettes de soleil.
Il faut porter des lunettes de soleil.
Voilà, je n'en avais pas.
Ah, c'est dingue. Ouais. J'avais jamais entendu ça.
Ouais. Voilà,
on a des tips pour la fin du podcast.
Surtout pas mettre de lait, comme on dit dans tous les bons vieux guides
de grand-mère.
Google nous dit, voilà, surtout pas de lait, c'est full bactéries, ça. mettre de l'eau claire, un maximum d'eau claire déjà avant de partir.
Ouais,
à
en route de l'hôpital, te mettre de l'eau.
Ouais. Et alors, moi, je me forçais sur le trajet. Mon mari roulait à une vitesse. Il a volé tous les feux.
Tu vas où à l'hôpital? Il y a un hôpital au Kruger?
Il y a des hôpitaux privés. Non, là, on a été dans les fameuses médicliniques, la chaîne d'hôpital privé Sudaf. Et du coup, ils connaissent le problème, ça va
bien
très
sûr,
vite.
Ouais.
Mais il faut le temps d'y aller, du coup, hein, parce que ça fait quelques...
Quand tu es au fin fond de la brousse.
Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des piqûres de scorpions. Moi, enceinte de 7 mois, piqûres de scorpions. Mon mari, entre les jambes, un
Mais
dimanche
non.
à 2h du matin, plein orage. Bon, là, on ne s'est pas... pour ces deux piqûres de scorpions, on ne s'est pas affolé parce qu'on savait, par habitude, que les piqûres de scorpions, en fait, réagissent très vite. Très vite, il y a une réaction. Il y a un gonflement s'il y a eu du venin.
D'accord.
Si ça fait juste très, très mal, mais qu'il n'y a aucune réaction, c'est que c'est une, comme ils appellent, une dry bite.
Il n'y
a pas eu de venin.
Quoi.
Voilà, ouais. il a juste pincé, mais il n'y a pas eu de venin. Donc voilà, j'étais à 7 mois de grossesse, mais je n'ai pas réagi.
Mais alors, grossesse, mais raconte-nous. Vous êtes dans Lodge et vous...
De grossesse,
on fait une famille dans la brousse.
On s'est retrouvés à deux. Donc, on s'est dit, autant être plusieurs, profiter à plusieurs. Et donc, très vite, on a lancé les bébés. Et donc, grossesse en pleine brousse.
Et comment tu te fais suivre, alors?
À Johannesburg. Donc, tous les mois, on allait jusqu'à Joburg.
Tu mets combien de temps? 2 heures, 3 heures?
6 heures, en 4x4.
6 heures.
6 heures pour l'examen, une fois par mois.
Et donc, on peut le dire à toutes les femmes qui n'osent pas prendre la voiture quand elles sont enceintes, qu'en fait, tu as fait des bébés en faisant 6 heures de 4x4.
Avec une heure de piste. Hein, donc, j'étais jeune, donc je pense que ça aide, parce qu'on a eu des visites de femmes enceintes au Lodge et elles se sont retrouvées au Lodge avec des contractions à devoir bouffer quand
après
même des médocs.
Après la route,
parce qu'une heure de piste, ça se coupe quand même bien. Mais les miens, je ne sais pas, ils devaient être habitués depuis le début. Donc voilà, super. Tous les mois, je bourre pour les examens. Ça nous permettait de faire des courses, de faire un peu de shopping, d'acheter des vêtements, d'aller se balader, voir des potes, d'aller au resto, d'aller au cinéma, d'avoir une vie un peu... Donc, c'était pas mal, en fait. Ça se mettait bien.
C'est ta pause urbaine dans le mois de brousse.
Voilà. Donc, c'était pas mal. J'étais suivie quand même un peu de près, puisqu'il y a quand même la malaria, scorpion, black mamba. Enfin, voilà. C'est quand même des zones un peu à risque. Mais je sais pas. J'étais...
Et comment t'accouches dans la brousse?
J'ai pas accouché dans la brousse. Mon médecin m'a demandé d'être à 8 mois de grossesse à Joburg.
Ah, donc vous êtes installée là-bas?
Donc, on a loué un appart pendant un mois.
D'accord.
Première année 2010, en pleine Coupe du Monde. Donc, dément, les vouvouzelas là dans toutes les rues. Enfin, ambiance de dingue. Donc, super accouchement, super naissance. Et puis, 2 césariennes. Et en Afrique du Sud, les césariennes, ça va très vite. Hein. 3 jours
D'accord.
après, on est sortis de l'hôpital. On fait 2 nuits à peine à l'hosto. Et donc, 5 jours après, on était en brousse.
T'es repartie avec bébé dans les bras?
Ouais.
T'es 6 heures de route avec bébé et la cicatrice, quoi.
Ouais, on m'a juste à enlever les fils et on est reparti le lendemain.
Et là, quand t'étais à Joburg, t'as tout acheté d'ailleurs, le petit lit bébé, le truc
Alors
tu t'es équipé un peu?
Ouais, une base, hein, mais pas à l'européenne, quoi.
Ouais.
Ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours halluciné quand je faisais mes allers-retours à Bruxelles et que mes copines ont commencé à avoir leurs enfants, de voir...
Tout ce dont on pensait avoir besoin.
Ouais,
quoi.
Et puis même le nombre de compléments alimentaires, le nombre de... Ah, de tout, même juste pendant la grossesse,
Pas
quoi.
Simple, hein?
Et prise de tête.
Ouais.
Énorme, quoi. Et mon médecin, en fait, la première fois que je suis tombée enceinte, donc j'ai 28 ans, et il m'a regardée, et lui a l'habitude de gérer, je l'avais pris justement parce qu'il avait l'habitude de gérer des grossesses à risque et aussi des grossesses dans des zones un peu spéciales.
Ouais, ouais.
Et il m'avait toujours dit, il m'a dit dès le premier rendez-vous, il m'avait dit « Ton corps, c'est mieux que toi ce qui est en train de se passer, donc tu vas lui faire confiance ».
Mais t'as fait confiance, toi?
Ouais, mais de toute façon, j'ai jamais été très stressée dans la vie, quoi.
T'étais bien,
encore
quoi.
Aujourd'hui, parfois, je me dis, mais allez, comment on a pu avoir ce genre
c'est
de...
Génial.
Comment j'ai pu faire ça? Mais sûrement même, je sais pas, j'étais tellement alignée avec cette vie. J'ai
c'était
jamais
rien,
remis quoi. En question. Jamais.
Mais d'ailleurs, pourquoi t'es allée en Afrique du Sud? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chimpanzés en Afrique du Sud. Enfin, c'est pas la vie dans la jungle.
C'est pas les gorilles et les
chimpanzés. C'est pas les
gorilles, ouais. C'est juste que l'Afrique du Sud offre quand même ce confort quand même un peu européen.
D'accord.
Et du coup, c'était vachement attirant, venant directement de Bruxelles, du sud de Bruxelles, de pas débarquer non plus dans la jungle. C'était plus facile de se projeter à long terme dans ce genre de pays.
D'accord. Donc tu rentres avec ton petit bébé, donc jeune maman dans la
brousse. Ouais. Voilà. Et puis, premier safari le lendemain de son arrivée.
Trop bien.
Voilà. Premier éléphant à 7 jours. Voilà.
Et lui, puis, il grandit comme ça. C'est un petit garçon ?
C'est un petit garçon, Jules. Et Jules ne porte jamais de vêtements. Jules ne porte pas de chaussures.
Mais Jules, elle porte des couches quand même ? Tu vas lui
juste
en acheter ?
Juste des couches, ouais. Ça, oui, oui, on trouve tout la même chose. C'est loin. C'est une heure de piste pour aller faire un supermarché. Mais il y a exactement les mêmes produits qu'en Europe. Donc oui, oui, les Pampers, tout ça, on a.
Donc il a des couches, mais c'est tout ?
Voilà. Il ne supporte pas bien les tissus. Voilà. Donc, quand on bouge, que ce soit au Cap ou à Jobourg, quand on voyage un peu, il faut l'habiller et on sent que c'est... Voilà, il le fait, il les garde, mais c'est inconfort.
C'est mougli, ton fils, en fait.
Et donc, il devient un peu mougli. Et donc là, c'est très... Enfin, c'est rigolo. Maintenant, c'est rigolo. Sur le moment même, j'avoue qu'il y a des moments où j'ai un peu flippé. Et je me suis un peu demandé ce qu'on faisait parce qu'en en fait, il ne parlait pas. Il n'y avait pas de mots qui sortaient. Donc, c'est quand même un enfant qui a grandi avec deux chiens. Et que des animaux. C'était nos sorties du week-end. Et donc, il savait repérer les animaux sauvages à des kilomètres. Mais il avait beau nous les montrer, on ne voyait rien. Mais c'était...
Ah, avant toi, il repérait tout.
Dans la voiture, il repérait tout. Et il avait beau insister et nous montrer. Mais comme il ne parlait pas, il ne savait pas nous décrire exactement à gauche de l'arbre, machin. Donc, c'était que des signes et des bruits. Et donc, il savait faire tous les sons de tous les animaux. Il aboyait excessivement bien. Il mangeait toutes les croquettes de nos chiens. Il mangeait à quatre pattes sa tête dans la gamelle. Et puis, quand on allait un petit peu se promener, parce qu'on ne pouvait pas se promener vraiment, puisqu'il n'y avait pas de clôture autour du lodge, et on est quand même entouré de lions, de buffles, de rhinos. De... Donc, on le faisait, mais vraiment en restant vraiment sur le parking. À chaque arbre, il levait la jambe. Donc, un jour, je me souviens, on est rentré à Bruxelles et il fallait absolument que je refasse des vaccins. Parce qu'en Afrique du Sud, on ne voit pas de pédiatre. Tant que l'enfant n'est pas malade, on fait les vaccins dans les pharmacies.
D'accord,
c'est des infirmières qui font les vaccins. Et il n'avait jamais été malade. Donc, on arrive à Bruxelles et je dois quand même faire un rappel. J'en profite quand même pour voir un pédiatre. Et là, en fait, je suis mais flippée. En
de quoi disant, du jugement
de, non, de, oui,
ah,
et, de, et de la peur qu'elle me dise s'il y a quelque chose qui.
Il a quel âge là, ton fils ?
Il doit avoir un an et demi, je crois. Et donc, on arrive chez le pédiatre et il est sur mes genoux et il commence à lui aboyer dessus. Et donc, la honte totale. Et je fais, j'essaie de le prendre à la rigolade. Je dis, il adore jouer aux chiens. Voilà. Donc, elle ne remarque rien. Et puis,
Il adore jouer aux singes.
Elle le vaccine, etc. Elle l'ausculte, tout va bien. Et puis à la fin, elle me dit, est-ce que vous avez des questions et tout ? Moi, paniquée. Non, aucune question, tout va bien. Ah, OK, bon retour en Afrique du Sud, merci. On rentre, etc. Et puis, ça évolue. Donc, il continue à vraiment à grandir. On sent
comme
que c'est
un
enfant voilà, qui grandit avec que des animaux. Quoi. Et donc, il y a un moment donné, on a deuxième, ma fille, Charlie. Et puis on décide à un moment donné quand même de bouger au Cap parce qu'il faut nous resociabiliser. Enfin, on commence. C'est quand même dur la vie en brousse d'avoir que
parce
ça
que
au quotidien.
Vraiment tout
c'est
seul,
compliqué.
Quoi.
On est tout seul, il y a très peu de vie sociale et les voisins, c'est des terrains qui font plus de 25 hectares. Donc, je veux dire, les voisins, on les voit pas. Donc.
Et ce que tu disais aussi, c'est que t'es libre, t'es au milieu de la nature, mais en fait, tu peux pas aller marcher dans la nature.
Voilà, alors c'est très contradictoire.
Donc c'est un entre-deux, c'est-à-dire que c'est sublime
c'est
autour
ça.
De toi, il n'y a rien,
c'est
des
ça.
Milliers de kilomètres, mais toi,
on
tu
a
peux
l'impression
pas aller faire
de s'offrir une liberté de dingue, d'être au milieu de nulle part, etc. Mais en fait, j'étouffe, en fait.
Ouais,
on étouffe quand même. Parce qu'on est limité à la terrasse, en fait. On avait une terrasse en bois sur pilotis, ce qui permettait quand même aux enfants de circuler et nous aussi, et d'être loin, enfin, de pouvoir repérer facilement si un serpent. Est sur la terrasse et avec toutes les vibrations. Et de fait, d'avoir deux chiens, ça amène pas mal de vibrations. Donc, c'est pas mal pour les serpents.
Ton vrai danger, c'était les serpents, j'ai l'impression.
Ah, j'étais un peu flippée du Black Mamba parce qu'en fait, on a eu des décès autour de nous à cause des Black Mamba et de Sud-Africains blancs. Hein, je veux dire,
ils
pas des
quoi,
gens qui habitaient
Black
dans
Mamba,
des huttes.
Hein. Ils te piquent ?
Ils mordent avec du venin et ça, c'est 20 minutes. Donc là, on n'a pas le temps d'aller à l'hôpital.
D'accord.
Et
il est où le Black Mamba ? Comment tu l'évites ? Quand tu marches dans la brousse, il te pique ou comment il fait ?
Un serpent de base s'échappe, sauf s'il est coincé. C'est ce qui est arrivé avec mon cobra du Mozambique. Enfin, on l'appelle comme ça, mais c'était en Afrique du Sud. Il faut rester dans des endroits qui sont ouverts et en fait, à la vibration,
il s'en va.
Ils s'en vont. En soi, un serpent ne va pas nous attaquer, quoi. C'est juste qu'il y a des moments où il peut être coincé derrière un gros rocher, derrière un mur de la maison, justement, etc. Donc, c'est toujours dangereux quand il y a un serpent qui est dans la maison, parce que c'est à ce moment-là qu'il devient agressif. Parce que, voilà,
il doit se défendre. Et tu fais quoi s'il y a un serpent dans la chambre de tes enfants ?
Alors, mon mari s'était formé à ça.
D'accord.
Donc, on avait l'équipement. Ouais, on
Et
avait...
C'est quoi, l'équipement ?
C'est ces longues pinces, là. Très, très longues pinces pour pouvoir attraper le serpent au niveau du cou. Et de le prendre et de directement le mettre dans un sac spécial.
Donc il a fait une formation Black Mamba.
Ouais.
C'est ça le plus gros danger quand tu vis dans la brousse, tu dis ?
Il y a ça, il y a n'importe quel problème de santé aussi. Donc ça, on avait eu 3 jours de cours de secourisme. Surtout que j'étais enceinte. Et donc, on s'était offert 3 jours mais intensifs d'un ambulancier qui était venu et qui nous avait...
Il vient chez toi ?
Il vient, voilà. Et c'est 3 jours intensifs et il nous met en situation. Donc, il venait chaque fois avec des personnes qu'on ne connaissait pas, qui faisaient semblant de faire un malaise, qui faisaient l'enfer.
Tu te casses une jambe, tu touches quelque chose.
Voilà. C'était vraiment nous dire qu'est-ce que vous faites en attendant que moi j'arrive. Parce que lui, c'était en plus l'urgentiste du bouche. Donc, il avait sa Defender équipée.
Il vient comment, l'urgentiste du bouche ? Il vient en 4x4 ?
En Defender, une Defender qu'on a dû utiliser malheureusement une fois. Après une jambe cassée, la jambe cassée de mon mari, chute à cheval. Voilà, et donc il est arrivé, et donc on le connaissait heureusement très très bien du coup. Et donc il est arrivé avec son 4x4 et il l'a emmené, c'était 3 heures de route.
Mais donc il n'y a pas de vraie urgence, c'est-à-dire là tu fais une attaque cardiaque,
il y a des hélicoptères et il y a des hélicos, ouais. On avait quand même des assurances hélicoptères.
D'accord.
Ouais. Là, c'était
si vraiment il y a une urgence vitale.
Voilà, là, la jambe cassée, c'était pas vital. Il y avait pas d'hémorragie interne de ce que les premiers secours ont pu. Donc, il a pu rouler pendant 3 heures jusqu'à l'hôpital. D'accord. Ça a été 3 heures en ambulance quand même. C'était long avec une jambe en L. Ouais.
C'est ouf.
Ouais. Donc non, là, on a connu quand même des choses.
Et combien de temps tu restes alors dans la brousse en tout ?
7 années.
7 ans.
Ouais. Donc
loin
on a
tout,
connu
en fait.
Plein de choses. On a connu des décès suite à des Black Mamba, suite à une girafe, une touriste qui a été une girafe.
Elle a fait quoi la girafe ?
Alors c'était un safari de nuit et en fait ils l'ont éclairée à la lampe de poche, mais dans les yeux. Ils l'ont trop éclairée, donc elle a eu peur de son ombre et donc elle a sauté, mais au sens inverse, donc dans la voiture safari. Et il y a une des dames qui a reçu un coup de sabot. Voilà.
Alors, tuée par une girafe, je l'avais jamais entendu ça.
Oui, voilà, on craint les Black Mamba, on craint les lions, et non, girafes. Et les girafes, étonnamment, elles sont assez... elles me faisaient peur aussi, parce que quand elles partent au galop, ça fout un peu quand même les boules.
On m'a dit qu'elles pouvaient tuer un lion, moi.
Oui, complètement.
Avec un coup de sabot,
on a assisté à des scènes où les lions arrivent, s'agrippent au derrière, vraiment au dos de la girafe, et avec des coups de sabot, mais il est sonné, hein, le lion reste par terre.
Mais les girafes, parfois, elles étaient autour de ta terrasse ?
Ah, plus que ça, oui, il fallait parfois les chasser. On a dû chasser des éléphants aussi. On a eu un chien, un de nos chiens, qui a couru derrière un éléphant, on a cru le perdre. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une pauvre girafe qui est morte, foudroyée.
Devant chez toi ?
Pas loin de la maison, et on a encore son tibia dans notre salon. On a eu aussi, ça c'était très triste, on a eu la naissance d'un éléphanteau. Et en fait, il était mal formé et il n'arrivait pas à se mettre sur ses 4 pattes. Et là, en fait, étant donné qu'il s'affaiblissait, la mère a commencé à paniquer, à tourner autour parce qu'elle essayait de le mettre debout et il restait toujours en fait sur ses genoux. Et là, un ami ranger a dû prendre vite la décision de lui mettre une balle dans la tête.
Ah, au bébé ?
Mais oui, parce que sinon, il allait être les lions, les hyènes, tout ça arrivait. Et en fait, c'était ça où il se faisait bouffer vivant. Et pour la mère, en fait, c'était aussi un traumatisme. Et donc, mais il a pu manger pendant 3 jours, hein, notre pote.
Ouais. Et vous étiez là ?
J'ai pas assisté à la scène. J'ai vu le petit et il nous a d'abord ramené au lodge et puis il est retourné. Il est allé faire ça tout seul. Mais on a entendu les coups de feu, ouais.
Ouais. Et quelqu'un garde tes enfants ? Il y a quelqu'un qui t'aide avec les enfants ?
Non.
Ou vous gérez tout ?
On gère
les deux.
Tout. On a un couple local qui vit sur place, mais... c'est trop local, donc j'ai pas confiance. Du coup, je fais tout toute seule et ça, c'est un peu compliqué. Je gère
l'agence.
J'ai Jules qui est dans son petit transat que je balance avec mon pied pendant que je fais mes devis sur mon ordi.
Et après, t'as Charlie.
Et après, j'ai Charlie. Là, c'était compliqué. Là, j'ai dû faire un break d'un mois quand même pour gérer les deux.
Un mois. Ils ont combien de temps de différence ?
2 ans tout pile.
Okay.
Ouais.
Ah ouais. Donc, tu as 2 tout petits à la maison, quand même.
On a deux tout petits, ouais. Mais bon, en même temps, on a un rythme de vie qui nous permet d'en profiter. Hein.
En fait, parce que tu n'as pas d'obligation ni familiale, ni sociale. C'est-à-dire que vous êtes très libre et malgré toute votre
avec
emploi
la
du
nature,
temps,
quoi. Ouais. On apprend en fait à ralentir en tant qu'Européen. On apprend à ce que un pneu crevé le matin, bah ça va nous prendre la journée pour régler le problème. Et c'est ok.
Et c'est ok.
On lâche prise. C'est apprendre à voir de loin parce qu'on avait un lodge légèrement en hauteur, donc on avait une vue à 180 degrés. Donc c'était le Mozambique devant nous et on voyait ces orages arriver en été. Et donc on savait que qui disait orage disait panne de courant, qui disait panne de courant forcément panne d'internet, mais surtout plus d'eau courante parce qu'on pompait l'eau dans le sol. Et donc il fallait vite prévoir les seaux, etc. Mais c'était ok.
Tu vis au rythme de la nature.
On vit complètement au rythme de la nature. On est réveillé à 5h, 5h30 du matin, mais à 9h, on dort. Il n'y a plus ces stress, il n'y a plus ces... On est très, très loin, en fait, du rythme de vie européen, quoi.
Et tu lis un peu, comment tu fais pour, au niveau culturel, tu te commandes des livres, tu vas en acheter quand tu vas
quand
à Johannesburg et tout.
Quand je reviens à Bruxelles avec, avec les valises pleines de bouquins. Je crois que c'est le seul truc vraiment que je ramène. Parce que pour le reste, vraiment, en fait, on se détache de tout, tout de suite. Les fringues, c'était ce qu'il y avait de plus confortable. J'avais un look, mais j'arrivais à la gare ou à l'aéroport, parfois à Bruxelles, et je voyais la tête de mes parents qui de dire, oula, là, on la perd.
Mais en fait, tu te concentres sur ce qui est important.
Que l'essentiel. L'essentiel, et on prend conscience de l'importance d'un rouleau de papier toilette. On n'a pas attendu le Covid pour se rendre compte de ça. Du pain, de cette chance d'avoir un frigo rempli, d'avoir une voiture pour pouvoir se déplacer, pour aller faire ses courses. Et puis l'importance aussi de la connexion avec les locaux. En Europe, c'est beaucoup plus condensé et finalement, on ne connaît pas nos voisins. Et là-bas, on a des distances de fou entre voisins.
Tu les connais.
Et en fait, on se connaît, on s'entraide pour le moindre truc. Je suis étonnée de voir ces Sud-Africains qui retiennent tout de ce qu'on leur raconte de nos vies.
C'est plutôt des Sud-Africains, tes voisins, ou c'est d'autres expatriés?
C'est essentiellement des Sud-Africains. Et il y a quand même quelques expats qui ont tout quitté pour vivre en brousse. Il y a un couple de Hollandais, par exemple, qui ont plus ou moins notre âge, donc avec qui on s'entend bien. Il y avait aussi un couple d'Américains, mais eux étaient dans une autre réserve, ça faisait très loin. On avait un ami belge aussi qui a toute une réserve, lui, dans le sud du Kruger. Mais donc, pour aller voir ses voisins, c'est une heure de route aller, une heure de route retour. Donc, il n'y a pas de dîner en soirée, par exemple.
Tout se fait à déjeuner midi. Chez eux le week-end, ouais. Quoi.
C'est des barbecues le midi, et donc on part à 9h du matin, et on revient à 8h du soir, et on est KO.
Ouais,
voilà.
Trop bien.
Ouais.
Mais à un moment, tu dis qu'il faut partir.
Et puis, il y a un moment où, voilà, avec deux enfants et puis 7 ans dans la brousse, il y a un moment donné, ça pèse.
Et ça pèse pas ton mari? Vous êtes vraiment que tous les deux, quoi.
Oui.
Vous aimez à la folie.
Ah, d'être à deux tout le temps.
D'être à deux, parce qu'en fait, t'as pas d'autre échappatoire.
Et on travaille à deux. On travaille à deux. Alors, il y a parfois quelques stylos qui ont volé. Non, mais en soi, on s'est toujours... on s'entend comme potes.
D'accord.
On n'est pas prise de tête. On a heureusement un peu les mêmes envies au même moment. Et c'est justement tout ce qui m'a toujours attirée. C'est son côté aventurier, son côté...
Comme toi, quoi.
Voilà. Et du coup, j'ai toujours su que je n'allais jamais m'embêter, que je n'allais pas rester en Belgique à avoir une vie, un train-train quotidien. Donc, c'était top. Et là, pour le coup, la vie en pleine brousse...
Ça lui allait aussi bien qu'à toi,
c'était assez fou, quoi. Ouais. Oui, complètement.
Qu'est-ce qu'on fait au bout de 7 ans, voilà.
Donc, au bout de 7 ans, on fait quelques allers-retours au Cap et on finit par aimer cette ville qu'on n'a pas aimée au début, trop européenne. Sauf que là, après 7 ans dans la brousse, dans l'Afrique, la vraie, on a justement envie d'un truc un petit peu plus développé, quoi. On a envie d'aller au resto le week-end, on a envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'acheter parfois des fringues, d'aller chez le coiffeur, des choses basiques. Et du coup, Cape Town se met pas mal, déjà parce qu'il ne faut pas quitter le pays et qu'on n'a pas envie de quitter ce pays. Et ça reste une ville magnifique qui ressemble à San Francisco avec le confort européen. Donc ça nous convient pas mal, donc on atterrit là-bas.
Alors, tu as la nationalité sud-africaine ou tu as quoi comme...
Alors, nous, on n'a jamais eu la nationalité. Mes enfants ont la nationalité. Nous, on a la carte d'identité.
D'accord. Et donc, tu peux rester dans le pays?
Oui. On est citoyen.
Résident.
Résident, non citoyen, c'est ça.
Et donc là, tu trouves un appart, une maison ?
Et donc là, on trouve une maison à louer. Et là, c'est vrai que la première année est compliquée.
Ils ont quel âge, tes enfants ?
3 et 1 an. Et donc, il faut se remettre dans une vie un petit peu plus normale. Et là, j'ai du mal.
Là, ça veut dire le réveil qui sonne le matin.
C'est ça. Mettre son enfant dans une école. Et là, c'est... Voilà, on part... Alors, on arrive. Déjà, il n'y a pas d'aide. Il n'y a personne. Donc, je me retrouve toujours avec mes deux enfants sous le bras. Sauf qu'il y a le rythme de vie au Cap qui est quand même plus intense. Donc, ça devient vite compliqué. Donc, on arrive, je crois, au mois de... Plus ou moins, c'était au mois de septembre. Je pars directement à la recherche d'une petite école maternelle. Et là, je suis forcément...
Et ton fils, il parle ou il aboie toujours là ?
Il aboie toujours. Donc là, il aboie toujours. Donc en plus, c'est pas un cadeau. on est loin, il est très loin d'être propre. Enfin bref, c'est... Et donc, je trouve une petite école privée, maternelle, toute mignonne, pas loin de chez nous. Et je fais forcément la visite avec mes enfants, puisque j'ai personne à qui les...
Pour les faire garder.
Et donc, la visite atroce, parce que c'était une visite organisée avec plusieurs parents et la directrice. Et donc, en fait, mon fils avait développé son langage à lui. Donc, moi, je le comprenais très, très bien. Mais donc, il n'y a toujours pas de mots qui sort. Et là, pendant la visite, il me fait signe à un moment donné qu'il a faim. Donc, je lui donne un petit biscuit. Il est dans mes bras. Il jette le biscuit par terre. Il me fait signe que je dois le déposer par terre. Et il mange à quatre pattes son biscuit. Sauf qu'il y a la directrice et tous les autres parents. Donc, moment de solitude, mais total. Surtout qu'on est du côté de Constantia, c'est les beaux quartiers du Cap. Donc, enfin bref, je ne sais plus où me mettre. Et donc, je ris, enfin, nerveusement, je ris devant tout le monde. Et je dis, il adore faire le chien, toujours. C'est son jeu favori, voilà. Sauf que je sais qu'il est comme ça non-stop. Et donc, voilà, ça n'a pas l'air de les perturber. Ils acceptent mon petit bout. Et là, je fais, bon, cadeau, quoi, enfin... Voilà, vous en faites ce que vous voulez, je m'en fous. Tant qu'il est gardé, tant qu'il est heureux.
Et lui, il est content d'aller là-bas ?
Non, il déteste. En une fois, il se retrouve du jour au lendemain avec des enfants qui s'approchent de lui. Alors en Afrique du Sud, il n'y a pas les bises, c'est les hugs. Donc en une fois, l'étouffement total, les enfants qui arrivent, qui le serrent dans les bras, ils me regardent paniqués. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils m'étouffent. Enfin, c'est. Non.
Donc, il n'a pas vu beaucoup d'autres enfants pendant 3 ans.
Ah, il en a peut-être vu 2, je crois.
Ah ouais ?
Ouais. Donc, oui, trauma complet. Il déteste ça, il comprend pas ce qu'il fout là toute la journée, ce qu'on lui demande, enfin pourquoi commencer à lui montrer des lettres et des trucs, enfin c'est très très loin de la nature des animaux et des safaris qu'on faisait tous les jours en fait.
Et sa petite sœur ?
Et la petite sœur, elle est encore trop petite, donc elle est, je trouve très vite une nounou, femme de ménage, qui reste à la maison, à l'époque c'était pour 200 euros j'avais quelqu'un à temps plein.
D'accord.
Donc, on n'hésite pas.
Toi, tu peux travailler, bien sûr. Toi, tu peux travailler, tes enfants sont bien.
D'elle et elle est, je sais comment, je vois comment elle la gère, je vois, et elle garde son rythme, etc. Donc, c'est parfait, quoi.
Et donc là, t'es bien, tu t'installes.
Et donc là, on s'installe et très vite, on tombe une vente aux enchères, une maison en vente, canon. Un truc magnifique que j'aurais jamais pu imaginer dans mes rêves. Et puis, on gagne la vente aux enchères, de nouveau, pour moitié prix.
Donc, qu'est-ce qu'on fait alors quand on vit dans cette ville ? Qu'est-ce qu'on fait le week-end ? Comment on vit là-bas ?
Alors, ça redevient une vie un peu normale, mais ça reste quand même sud-af. Donc, il y a quand même la mentalité de mettre la famille avant tout. Mm-hmm. Donc, le vendredi à midi, en fait, il ne se passe plus rien au Cap. La journée, enfin la semaine, à 4 heures, on voit les papas qui font du surf avec leur fils.
À l'américaine un peu.
Je pense.
Ce côté très sport et finir les journées assez tôt pour passer des moments ensemble.
Oui, mais je pense qu'il y a encore plus quand même le côté famille, l'importance de la famille. Les valeurs sont quand même très différentes. Et donc le vendredi à midi, c'est les embouteillages. Tout le monde sort du bureau. Il ne faut plus passer un coup de fil après midi. Les entreprises ne.
On se retrouve en famille, quoi.
Voilà. Et donc, on se lève à 5 heures du matin, même au Cap. Les salles de sport sont pleines à craquer à 5h30. À 7h, tout le monde se met à travailler. Mais par contre, à 4h, tout le monde a fini.
Ah, c'est sympa en même temps comme vie.
Ouais, les écoles finissent vers 1h, 2h de l'après-midi. Et puis après, c'est sport à l'école.
D'accord.
Ça, c'est plus comme à l'américaine. C'est beaucoup de sport les après-midi. Et donc.
Et tes enfants, ils vont à l'école en anglais ou en
Alors, African? Ils ont commencé avec l'école française, mais là, il y a eu un trop gros décalage. Et donc, ça ne s'est pas bien passé. Et donc, on les a mis directement après à l'école américaine.
D'accord.
Ouais, en anglais.
Donc, eux, ils grandissent là.
Eux grandissent
là. Toi, t'es contente ?
je finis par aimer, je finis par me réadapter.
Ouais. Non, mais raconte-nous pourquoi tu es à Bruxelles alors, si c'était le paradis.
Alors, il y a eu quand même, en 15 ans, on a pu voir quand même le pays un peu se dégringoler politiquement, économiquement et au niveau de la criminalité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand ils ont eu 8 et 10 ans là-bas, la dernière année, on s'est dit, bon, on a quand même cette chance d'avoir des passeports européens. Est-ce qu'on n'est quand même pas mieux de leur offrir une adolescence en Europe, où ils peuvent aller jouer dans la rue, aller voir des potes, prendre un bus, prendre un tram, prendre un métro.
Et tu ne peux pas faire ça quand tu es au Cap ?
On ne fait pas ça en Afrique du Sud, non. Même les Uber, on n'est pas à l'aise. Les enfants doivent sortir différemment entre eux, chez eux. Enfin, c'est très différent.
Donc, tu conduis ton fils chez un copain, tu vas le rechercher chez un copain.
À 2h du matin, on va les rechercher. Il y en a qui les fait prendre des Uber, mais je n'arrivais pas à me projeter avec des ados, en fait,
d'accord,
au Cap. J'avais vraiment du mal. Et en fait, pour remettre un peu de piment quand même dans ma vie au Cap, j'avais ouvert aussi une association dans les bidonvilles où on donnait des cours particuliers parce qu'un enfant sur quatre en Afrique du Sud est illettré. Cette association a été un peu pénible parce que ça ne m'a pas donné la belle image du pays. Là, je me suis dit, OK, parce qu'on nous dit toujours depuis l'apartheid, la chute de l'apartheid en 98, en 98... on nous dit qu'il va falloir juste quelques générations pour que le pays se remette et change et évolue. Et là, de voir de mes propres yeux que ce sont des classes de 50 enfants, que les profs dorment et qu'un enfant sur quatre est illettré, même à 18 ans, là, je me suis dit non, il ne va pas falloir juste une ou deux générations. Là, ça ne va pas, ça va pas le faire.
Oui, et mais en fait, ça ne t'a pas donné envie de rester pour aider, même si on ne peut peut-être pas changer les choses toute seule, mais de dire j'ai peut-être un truc à faire. Et...
C'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Il y a tellement de corruption. Et en fait, on s'est fait jeter comme des malpropres alors que je ne demandais pas un euro, un franc à ces gens. Je leur demandais juste de nous mettre un petit local à disposition dans l'école. C'était une école de 2000 enfants. Et c'est tout ce que je leur demandais. Et puis, voilà, ce sont malheureusement des locaux qui sont venus après, qui ont géré cette école. Et ils se sont fait plaisir de mettre des blancs à la porte. En fait, j'ai été dégoûtée de me dire, mais même ça, en fait...
Même quand tu as voulu aider, c'était pas possible.
Voilà, même quand on veut aider, même quand on ne demande rien. Et il y a la moitié des profs qui étaient ravis de nous voir partir parce qu'en fait, on leur demandait un petit peu de travailler, ne fût-ce que de nous dire quel enfant était en difficulté. Sauf que même ça, ils n'étaient pas capables de nous le dire puisqu'ils ne donnaient pas cours, en fait. Ils dormaient. Il y a des profs que je réveillais pour venir chercher l'enfant parce qu'on le sortait forcément du cours pendant 45 minutes et puis on le ramenait en classe. Même ça, c'était trop. Et l'autre moitié était en pleurs en disant « Mais on ne va jamais s'en sortir. Ces pauvres enfants, on va faire quoi sans vous ?» Enfin bref. Et tout ça m'a un petit peu dégoûtée. Je me suis rendu compte que la politique, y a trop de corruption. On ne va jamais... Donc moi, je sais rien. Oui, évidemment que je suis aujourd'hui ravie de savoir que j'ai aidé une petite centaine d'enfants à lire et probablement du coup avoir un meilleur job plus tard. Et alors, on s'était associé avec une autre association qui, eux, placent les enfants qui sont par contre très doués, mais qui sont tirés vers le bas, du coup. Et on les plaçait dans des écoles privées, de blancs.
D'accord.
Donc, c'était super. Donc, je sais que j'ai participé à... Parce qu'il suffit d'un enfant dans la famille.
Bien sûr, pour tirer
pour que toute la famille, en fait, s'en sorte. Donc, c'est super. Mais ça m'a donné une image quand même un peu négative et lourde du pays.
Ça a poussé ton envie de rentrer.
Ouais, j'ai eu du mal à rester positive, en fait, par rapport au pays. Et puis, il y a une peur, il n'y a rien à faire. Il y a à un moment donné une peur quand on se réveille, il y a des coups de feu. Parce que ça, c'est courant à Jobourg, mais au Cap, ce n'était pas courant. Et quand on commence à se réveiller le matin avec des coups de feu, qu'il y a eu des tirs en bas de la rue et que je suis obligée en voiture de distraire mes enfants pour qu'ils regardent de l'autre côté parce qu'en fait, il y a un corps par terre qui n'est pas encore recouvert, qui est avec 20 balles dans le corps. Enfin, il y a un moment où on se dit vraiment, est-ce qu'on...
Ça, tu as senti que la violence, elle avait grandi pendant que tu vivais là-bas?
Ça a évolué, ouais. Oui. Nous, on a connu Cape Town. La toute première fois que j'ai découvert Cape Town, c'était en 2001. Et entre 2001 et 2020, quand on est parti, c'est...
Ouais, pas la même ville.
C'est plus la même ville, malheureusement, ouais. Et puis, ce Covid est arrivé. Et en fait, là...
Quand est-ce que vous prenez la décision de rentrer?
En 2019, on commence déjà à se dire qu'il est temps qu'on peut-être commence à lancer ce mouvement, en tout cas, en prenant notre temps, parce qu'on n'est pas malheureux, mais on se dit qu'il faut aller vers ça. Et donc, on commence à mettre la maison en vente, etc. Mais il ne se passe rien au niveau immobilier. Déjà, l'économie, elle commence à s'écrouler, donc il ne se passe rien. Et puis, en fait, après, ce Covid est arrivé. Et là, on s'est même dit, on va attendre 2 ans que cette crise passe. On évaluait ça plus ou moins à 2 ans, donc on avait bien évalué ça et on s'est dit, bah, c'est pas grave, on reste 2 ans de plus, puisqu'il va se rien se passer, on est quand même confinés comme pas permis. Et puis là, il y a un couple qui est arrivé, sorti de nulle part, qui a frappé à la porte alors qu'on n'avait pas le droit de sortir de nos maisons même, hein, on ne pouvait pas aller sur le trottoir, et qui avait vu que la maison était en vente, qu'on l'avait retirée et qui nous demandait si on pouvait du coup la louer et éventuellement si on voulait la vendre, enfin bref. Et là, on l'a pris comme un signe, on s'est dit... Donc on a fait un container en 3 semaines, donc on a emballé 15 ans de vie en 3 semaines. Et là, on arrive à Amsterdam. C'était Air France KLM qui avait organisé. Et là, on arrive à Amsterdam où là, il y a une vie pas possible. C'est en plein été parce qu'on quitte Cape Town en plein hiver. Tout le monde est sur les terrasses. Tout fonctionne. Tout est ouvert. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ?
Alors que toi, on est sur la même planète. En arrêt, quoi.
Mais c'était même pire que ça. C'était un pays en guerre. Les gens avaient faim. Ils retrouvaient des pendus dans les bidonvilles. Les gens se pendaient parce qu'ils avaient faim, parce qu'il n'y avait plus d'avenir.
Et là, vous travaillez toujours pour ton agence, enfin, malgré le Covid, mais votre business, c'est toujours l'agence de voyage ?
Non, nous, mon mari et moi, on avait vendu nos parts à mon beau-frère en 2019.
D'accord. Merci pour la belle famille.
Et voilà, et le Covid est arrivé. Le pauvre, il a dû gérer la crise du Covid.
Ouais. Et donc, vous faites quoi avec ton mari alors ? Vous arrivez en Belgique ?
On arrive en Belgique et là, tout de suite, du coup, on investit dans de l'immobilier. On achète, on retape, on revend, on loue. On veut investir dans de la brique. On veut... Parce que nous, on avait fait notre vie en Afrique du Sud. Tout était en Afrique du Sud. On avait acheté, on avait notre maison, on avait notre business, on avait tout. Et ça a fait partie aussi de la panique à un moment donné qu'on a eue, de se dire, c'est quand même un pays très instable. Ça reste le continent africain. Tout est là-bas. Et donc, on s'est dit, on va aussi profiter de ce retour en Europe pour réinvestir en Europe, pour tout stabiliser. Et puis après, on verra et on... Voilà. Mais le temps passe très, très vite. Trop vite. Ça va faire 3 ans, fin juin. Et on est
Ils
toujours là.
Ils sont contents,
là.
Tes enfants ?
Ils le vivent très mal.
Ah.
Ouais.
Ils veulent retourner voir les éléphants et les girafes ?
Ils veulent revivre en Afrique.
C'est vrai ?
Ouais. Alors, on a de la chance parce qu'on est dans une école internationale et un prof qui suit mes enfants depuis 3 ans est lui-même sudaf. Donc, on est fort resté dans l'ambiance sudaf et la mentalité, heureusement, sudaf, parce que les écoles sont extrêmement différentes. Donc, ça aide. Mais malgré ça, ils comprennent pas. Les hivers de 6 mois, ça les dépasse. Ça les dépasse. Et alors, genre, le changement de luminosité.
Mais tu retournes un peu en Afrique du Sud ? Tu es retournée depuis ?
On y retourne dans 2 semaines pour la première fois depuis notre départ.
Voilà. C'est la première fois.
C'est la première fois parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu plein de choses et parce qu'on a eu envie d'abord de montrer plein de choses aux enfants. On a voulu, on a été plein de fois en France, on a été en Espagne, on a voulu leur montrer plein de choses qu'ils connaissaient pas eux. La Belgique, on rentrait une fois tous les 2 ans hein, en Europe. Mm. Ils adorent le sud de la France, par exemple. Ils adorent, voilà. Mais quand même, c'est pas.
Et alors, tu seras où dans 5 ans ?
C'est pas pareil.
Tu seras où dans 2 ans ?
Oh, je sais pas. J'ai même envie de savoir où je serai dans 6 mois.
Dans la brousse, tu penses ou pas ?
Non, ça
tu vas y aller voir tes gorilles
ouais.
ou non ?
Ah oui, ça j'ai envie de faire. Ça, de toute façon, c'est sur ma liste. Maintenant, on aimerait avoir un autre quotidien qu'en Europe, quand même. L'Europe, c'est quand même, c'est trop confortable, étonnamment.
T'aimes bien quand c'est un peu rude, toi ?
Ouais, je trouve ça dangereux d'avoir une vie si confortable. Parce que ça nous empêche quand même de remettre des choses en question. Ça nous force à accepter des choses qui sont pas alignées, je trouve, avec ses propres valeurs. Le nombre de gens que j'entends qui me disent « mon boulot, c'est pas tout à fait ce que j'aime, mais c'est pas grave, je peux pas dire que je suis malheureux. » Non, ben si, en fait. Mais forcément, comme l'Europe offre un confort, il y a une sécurité sociale, on perd son emploi, il y a un chômage. Je découvre la mutuelle, je sais même plus comment on appelle ça, ces espèces de cotisations familiales. Le fait d'avoir 2 enfants, je reçois de l'argent tous les mois. C'est hallucinant.
Et tu penses que le fait qu'on soit si aidé nous rend un peu plan-plan et nous fait accepter des choses qui nous excitent pas plus que ça, quoi.
Voilà, on se met dans une vie qui est acceptable et du coup qu'on n'a pas besoin spécialement de changer parce que on est finalement quand même pas on n'est pas malheureux, quoi.
Ouais, mais est-ce que le but de la vie c'est de pas être malheureux ou c'est d'être heureux ?
Mais c'est ça. C'est ça qui est dangereux et c'est vrai que je vois plein de gens, j'ai jamais vu autant de gens autour de moi ne pas sortir de cette zone de confort parce que justement elle est pas si mal cette zone de confort. Je ne suis pas assez malheureux que pour devoir faire des changements. Et du coup, je trouve ça dangereux. Et en fait, là, ça fait 3 ans
il faut que t'ailles, faut
qu'on
que...
est là. Et parce que justement, il y a
bonheur,
un confort
quoi.
En Europe ouais. qui fait qu'on se dit, ah, est-ce qu'on quitte ce confort-là ou est-ce qu'on se remet... Alors, l'idéal, ce serait de trouver une Afrique du Sud sans criminalité, avec une stabilité. Mon mari l'a trouvé en Australie. Sauf que l'Australie, c'est très compliqué pour obtenir des permis et très cher.
Donc toi, en vivant là-bas, tu commences à voir que ça craint le cap, etc. Mais nous, en tant que touristes, en France, on a très envie d'y aller, on nous le vend beaucoup, etc. Donc toi, tu penses quoi ? Quand t'arrives en touriste, ça craint ou ça craint pas le cap ?
Non, et je pense justement que maintenant, c'est une bonne période pour aller visiter Cape Town, parce que justement, c'est une destination maintenant qui fait encore plus peur qu'avant, avec le Covid et tout ce qui se passe. Et justement, il y a moins de touristes parce que c'était quand même devenu à la fin une bonne
Disney,
destination ouais, mmh. touristique. Et genre nous, aux périodes de Noël, on ne circulait pas. Enfin, c'était des embouteillages partout. Enfin, c'était un peu la Côte d'Azur en plein mois de juillet-août. Je pense justement que c'est une super période. Et en fait, tout ce qui est criminalité, etc., c'est pesant. Mais quand on a un quotidien avec les problèmes de coupure d'électricité, etc., parce qu'on travaille, parce qu'on a des employés en qui on doit avoir confiance, etc. Ce qu'on n'a pas du tout en tant que touriste. Et la criminalité se passe principalement dans les bidonvilles. Donc franchement...
Tu ne le ressens pas quand tu viens visiter quelques jours.
Absolument pas.
Et qu'est-ce qu'on fait alors si on vient quelques jours au Cap ?
Ah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Forcément, il faut forcément voir la Table Mountain, le Cap de Bonne-Espérance, toute la péninsule. Il faut faire les meilleurs restos de la ville.
Les petits pingouins.
À la Boulders Beach, les petits pingouins. Il faut profiter des belles plages de Clifton, de Llandudno. Il faut... on mange bien. Il faut prendre un apéro à 16h.
On loue une voiture sans problème ? On loue une voiture à l'aéroport
complètement.
Et on peut
oui,
se balader ?
Oui, complètement. Pas besoin de grandes voitures. Pas besoin de 4x4, une petite voiture de ville fait l'affaire. Et puis, il faut prendre un apéro le vendredi à 16h sur Signal Hill pour voir le coucher de soleil.
Et plutôt Airbnb ou plutôt hôtel ?
Ça dépend du style qu'on veut. Nous, on a toujours voyagé en Airbnb en Afrique du Sud parce qu'on aime bien avoir cette liberté de pouvoir se prendre un petit déj tranquille le matin sans dépendre d'horaire. Mais les hôtels... sont magnifiques, il y a des hôtels de dingue. C'est juste, je pense que quand on est avec des enfants, c'est quand même chouette de pouvoir être en Airbnb, de rentrer de la plage plein de sable et
se faire un truc à grignoter
un truc
avant
un peu,
de partir.
Voilà,
et tout,
un truc
d'accord.
un peu plus pratique.
Et en Afrique du Sud, c'était quoi, toi, tes coins préférés alors ?
Forcément, en premier, la région du Kruger. Je suis finie par tomber amoureuse de la région du Cap, la route des vins. La route des jardins, mais parce que c'est un côté très européen. Donc, il faut surtout pas... On est déçu si on s'attend à aller en Afrique. Si on sait que c'est très européen, à ce moment-là, on peut profiter de la beauté des paysages et de l'endroit. J'aime beaucoup j'aime tout. Le Drakensberg, j'ai adoré. Toutes les réserves, qu'elles soient dans le KwaZulu-Natal ou dans le Mpumalanga ou le Limpopo, n'importe quelle réserve est magnifique. Tout est bien tenu, en fait. Tout est bien géré. Donc, ça vaut la peine, ouais.
Bon, je veux te suivre la prochaine fois. Merci, Frédéric. Franchement, tu m'as fait rêver. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et reviens me dire quand tu as trouvé ta destination.
Oui, avec plaisir. J'espère rapidement.
C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu... N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. À très vite. Merci et à bientôt.